Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous pour ce dernier épisode avant la diffusion des meilleurs moments d'accent dès lundi prochain. On s'arrête de nouveau sur la sécheresse qui menace toute l'Europe ou presque. L'Espagne, l'Italie et la France sont touchés, c'est récurrent, mais également l'Allemagne, les pays baltes et la Pologne. Dans ce pays très agricole, les cultures souffrent du manque de pluie, à tel point qu'il y a quelques semaines, une ville moyenne du centre du pays s'est retrouvée à devoir rationner l'eau pour ses habitants. Thomas Giraudeau.
Plus d'eau ou presque, une vague de sécheresse en plein centre de la Pologne, à Skierniewice. Pendant 2 jours, la ville a interdit à ses 50 000 habitants d'ouvrir le robinet pour autre chose que boire, cuisiner et se laver. Piscines et fontaines publiques ont été mises à l'arrêt. Il fallait préserver les maigres ressources en eau alors que la consommation avait doublé les jours précédents à cause des fortes chaleurs. Dans la région, il a fallu réserver l'eau à l'irrigation des cultures, bien sûr, mais aussi plus surprenant, à l'énergie. La Pologne dépend énormément de ses centrales à charbon et à lignite. Elles produisent 85% de l'électricité du pays et ont besoin d'une quantité gigantesque d'eau pour refroidir leurs turbines. 70% de l'eau consommée en Pologne est utilisée par les centrales. Les mines à ciel ouvert de charbon et de lignite affectent aussi les réserves d'eau. À force de creuser en profondeur, la nappe phréatique autour des mines baisse, ainsi que le débit des cours d'eau et le niveau des lacs et des étangs. De quoi réduire encore la quantité d'eau disponible et aggraver la sécheresse. À la mi-juillet, elle touchait 14 des 16 régions du pays et la plupart des cultures, arbres fruitiers, fraises, colza, pommes de terre, betteraves. Conséquence directe pour les Polonais, les prix des aliments vont fortement augmenter cette année.
Le réchauffement climatique pousse de plus en plus d'agriculteurs à s'adapter avec de nouvelles cultures venues d'Afrique, comme l'implantation du sorgho. Mais dans les laboratoires, on s'active aussi. Des chercheurs de l'université de Sheffield, dans le centre de l'Angleterre, ont développé une nouvelle sorte de blé qui transpire moins. Et oui, un blé sobre en eau, en quelque sorte. Marie Billon.
Il faut normalement 1800 litres d'eau pour 1 kg de blé. L'objectif de l'équipe scientifique de l'université de Sheffield était donc de développer en laboratoire une variété qui a tout simplement moins soif. Comme les humains, le blé transpire à travers des pores qu'on appelle des stomata. C'est sur ce mécanisme naturel de sudation des plantes que les spécialistes se sont penchés. Bien sûr, comme chez l'homme, la transpiration est utile, mais elle peut être régulée, explique la professeure Julie Gray.
Quand il y a de la lumière, les pores s'ouvrent pour laisser entrer le dioxyde de carbone qui permet la photosynthèse, le phénomène naturel à la source des nutriments. Mais quand ces pores s'ouvrent, beaucoup d'eau s'échappe. Pour chaque molécules de carbone qui se fixent, la plante perd environ 200 molécules d'eau. Notre hypothèse était donc la suivante, puisque depuis la révolution industrielle, le niveau de dioxyde de carbone est énormément augmenté, la plante ingère peut-être plus de CO2 qu'elle n'en a besoin.
Les études ont prouvé la véracité de cette hypothèse. À partir de là, l'idée était donc non pas d'interférer dans le mécanisme des pores, mais de les diminuer.
Nous avons modifié les niveaux d'une hormone qui contrôle le nombre de pores. On a travaillé sur des plantes avec moitié moins de stomata. Elles utilisent environ 40% de moins d'eau, mais elles se développent tout aussi bien. Puisque c'est du blé de laboratoire, nous n'avons pas pu le goûter. Mais nous avons fait des analyses nutritionnelles concernant les niveaux de fer et de zinc notamment, et nous n'avons pas trouvé de différence significative.
Les scientifiques ont même constaté que certaines plantes étaient plus grosses et en meilleure santé car transpirant moins, elles retiennent plus d'eau. Ils cherchent désormais des partenaires commerciaux pour développer ces graines et un jour les utiliser dans l'agriculture. Une telle variété de blé, plus sobre en eau, pourrait fortement intéresser les agriculteurs du continent africain et asiatique, comme les exploitants du sud de l'Europe, région où la sécheresse est régulièrement un problème pour les récoltes. Mais prévient la professeure Gray, il faudra plusieurs années encore avant la commercialisation de blé, de riz ou d'orge moins gourmand en eau.
Événement rare en Italie, la ville de Bologne accueille Ex Africa, référence directe à la citation de Pline l'Ancien, Ex Africa semper aliquid novi, soit il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient d'Afrique. Cécile Debarge.
On découvre d'abord des créations en bois, en ivoire, en argent ou en or, des statues du peuple songhier, des masques de l'Ardogon, des figures dédiées aux rites vaudous. Des nombreuses pièces provenant de collections privées, parfois jamais exposées auparavant dans un musée et encore moins en Italie, où les expositions sur l'art africain sont rares.
Et da qui entriamo.
Ici, on entre dans un chapitre tout italien. La première exposition d'art africain en Italie a été réalisée au cours de la Biennale de Venise de 1922. Et il faudra ensuite attendre les années 1980 avant qu'on reparle d'art africain.
Depuis les années 80, rares sont les expositions en Italie consacrées à l'art africain. Plus rares encore sont celles qui soulignent l'héritage artistique et culturel des œuvres, comme l'explique Giulia Fortunato du musée archéologique de Bologne.
Cette exposition a l'objectif de démonter certains clichés d'aujourd'hui, et donc ceux qui pensent trouver ici une expo ethnographique seront déçus car ici on ne parle que d'art.
C'est probablement la plus grande qualité de cette exposition, au-delà de l'incroyable variété des pièces exposées, aucune place pour le folklore ou les raccourcis. Il s'agit avant tout de rappeler aux visiteurs les échanges artistiques qui animent depuis des siècles Afrique et Europe.
Ça ne raconte pas seulement l'art africain, mais aussi les influences que cela a eues sur l'Europe et sur l'histoire de l'art européen.
Dans l'une des dernières salles de l'exposition, on découvre des tableaux parfois peu connus, directement inspirés de l'art africain, de grands noms de la peinture moderne européenne, comme Paul Klee, Ernst Barlach ou Max Bernstein. Un héritage culturel et artistique qu'il est important de rappeler plus encore dans un contexte politique complexe comme celui de l'Italie, où de nombreux politiques ne cesse de dépeindre l'Afrique à travers les questions migratoires.
We want freedom to cross, freedom to pass, freedom no crime. We cross the line.
Freedom is a must.
Bloody, bloody border.
Les apports des anciennes colonies, leur héritage musical ou comment il a fusionné avec nos musiques occidentales, c'est tout le thème de Paris-Londres Musique Migration, exposition parisienne qui se tient au musée de l'histoire de l'immigration. Costumes, instruments, photos, vidéos et bien sûr playlists foisonnantes documentent la musique post-coloniale née dans les deux capitales de 1962 à 1989 quand la musique est devenue globale. Récit d'une révolte qui a infusé ensuite l'ensemble de la scène musicale. Un voyage auquel nous invite Frédéric Lebel avec Stéphane Malfette, commissaire de l'exposition.
En 1964, un nouveau son venu des Sound Systems de Jamaïque arrive en Europe, c'est le ska. Mais il faut attendre 1965 pour entendre le premier groupe multiethnique britannique, The Equals. Ça ne s'invente pas, est composé de 3 Jamaïcains et de 2 Britanniques. Leur Baby Come Back devient numéro 1 des ventes au Royaume-Uni et numéro 2 en France. Leur titre, Police on My Back, fera date. Il raconte les rapports tumultueux de la jeunesse et de la police. Et il aura une longue vie puisqu'il sera repris des années plus tard par les Clash, l'Asian Dub Foundation et Zebda. Dans les années 70, le politique fait une entrée en force sur la scène musicale. Fin août 1976, des émeutes opposent la police et les jeunes issus de l'immigration pendant le carnaval de Notting Hill. Un carnaval, justement, né en réaction à d'autres émeutes raciales, celles d'août 1958. Stéphane Malfette, le commissaire de l'exposition.
Dans sa constitution, il est éminemment politique. C'est vraiment une réaction à des actes racistes commis à Londres et qui, du coup, a mobilisé avec figures comme Claudia Jones, la communauté caribéenne, jamaïcaine, autour d'un événement qui aussi valorise cette culture, notamment musicale. Mais si aujourd'hui, finalement, le carnaval de Notting Hill est une sorte d'argument touristique pour la ville de Londres, ça reste vraiment fondamentalement une sorte de Caribbean Pride, un moment d'expression dans l'espace public de cette richesse et de cette créativité artistique, et aussi de résistance. Hein, comment on se fait entendre dans une capitale comme Londres. Et c'est pour ça qu'il y a cette culture du sound system, il y a cette culture de la gastronomie dans l'espace public, de la danse, du défilé, du carnaval. Mais ça reste quelque chose de très politique.
Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris.
Avec 10 ans de retard sur Londres, Paris découvre aussi la musique de ses travailleurs immigrés. C'est l'Africa Fête, portée par Mamadou Kanté, rendez-vous aux origines très militantes.
Il y a un lien vraiment intéressant entre le syndicalisme d'extrême gauche post-68, de défense des travailleurs immigrés, de défense de ces travailleurs dans leur quotidien, dans les foyers, et qui passe par l'organisation de festivals de théâtre, mais aussi de musique. On rend hommage à un merveilleux personnage, Mamadou Kanté, qui a créé Africa Fête, avec d'ailleurs le parrainage de grands artistes de l'époque, comme Claude Nougaro, François Béranger. Et Africa Fête, qui part vraiment d'un mouvement très militant, hein, et très extrême-gauche dans l'âme, et qui va donner lieu à la création en 79 d'un festival, qui finalement est créé pour collecter des fonds, faire connaître la cause, mais qui devient très vite un rendez-vous d'expression de la richesse musicale venue d'Afrique.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Londres et Paris vont alors marcher à l'unisson. Ce sont les concerts Rock Against Racism en Grande-Bretagne, auxquels répondent Rock Against Police en France. Il préfigure la marche pour l'égalité et le grand concert de SOS Racisme en 1985. En France, carte de séjour de Rachid Taha est lancée.
Carte de séjour, Rachid Taha accompagne la marche de 1983, la marche pour l'égalité, la dignité et contre le racisme, dite marche des beurs. Carte de séjour donne un concert à l'arrivée de cette marche. Même si Rachid Taha s'est toujours gardé de devenir une figure de proue comme ça, de la mobilisation politique, hein, il était bien plus que ça, une sorte de punk sans frontières. Mais effectivement, Carte de séjour a été vraiment dans ce sillage de ces années très politiques.
Peu à peu, les concerts portent des causes bien plus mondiales, comme le concert de Wembley en 1988 pour la libération de Mandela. Dans les années 80, le cosmopolitisme est devenu roi, même s'il est marqué différemment de part et d'autre de la Manche par l'histoire de la colonisation.
Côté londonien, on a vraiment cette musique principalement venue de Jamaïque, mais aussi de la diaspora asiatique. On évoque notamment autour d'un groupe comme Asian Dub Foundation, ce grand mix des années 80 où ces sonorités venues d'Inde, du Pakistan, se métissent avec de l'électro, de la naissance du hip-hop, du punk, du rock. À Paris, effectivement, c'est un peu différent, même si le reggae a un très fort impact, notamment à partir du début des années 80. Et on revient d'ailleurs sur ce concept mythique de Bob Marley ou Bourget, mais finalement c'est les musiques qui vont faire la scène parisienne des années 80 sont plutôt des musiques venues d'Afrique et surtout d'Afrique subsaharienne, même si on a aussi l'Afrique du Nord avec le Raï et 86, le premier festival de Raï à Bobigny, les premiers concerts de Khaled notamment, entre autres à Paris.
Les minorités ont conquis la majorité, la world music s'est imposée auprès des maisons de disques. Le meilleur exemple étant sans doute celui de Manu Dibango et son titre mondial, Soul Makossa.
Soul Makossa de Manu Dibango, qui a été un contributeur direct de l'exposition et qui raconte d'ailleurs dans un film assez génial à la fin de l'exposition l'histoire de ce morceau qui était un tube mondial parce que les Américains s'en sont emparés dans les années 70, mais qui dit finalement que c'était un 45 tours qu'il avait enregistré pour une coupe de foot d'Afrique qui n'avait pas du tout vocation à forcément être diffusé mondialement parce qu'il n'était même pas vendu dans le commerce. Et finalement c'est des Américains qui sont tombés dessus et qui du coup l'ont diffusée, et alors c'était un tube mondial. Et cette chanson qui donc incarne ce succès de Manu Dibango, mais un moment de sa carrière qui est d'une richesse incroyable, puisqu'il a commencé avec Nino Ferrer dans les années 60. Il est toujours en activité, je crois qu'il a célébré ses 60 ans de carrière cette année.
Paris-Londres, musique migration, l'exposition est visible jusqu'en janvier prochain à Paris. This is the kind of record I have always wanted to make available. Avec nous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, on continue dans la World Music pour cette dernière chronique avant la rentrée. Et c'est avec Damon Albarn. Décidément, il est partout.
Eh oui, un nouvel épisode aujourd'hui des aventures musicales du staccanoviste Damon Albarn, qui multiplie les projets tous azimuts depuis 30 ans et les débuts de son groupe Blur. Il y a eu Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, des opéras ou encore le projet Mali Music avec Too Many Diabetés en 2002. Et c'est à nouveau en Afrique que c'est délocalisé Damon Albarn, mais cette fois-ci à l'autre bout du continent, puisque le collectif Africa Express, qu'il a fondé en 2006, s'est reformé à Johannesburg autour d'une escouade de musiciens sud-africains et européens. Les 18 morceaux de l'album Egoli ont ainsi vu le jour en une semaine. Ils sont le fruit d'une collaboration entre des musiciens britanniques comme le chanteur Gruff Rhys et certaines des figures emblématiques de la bouillonnante scène sud-africaine comme le collectif BCUC ou le rappeur Morena Leraba. Le résultat est un mélange réjouissant de sonorités ultra-modernes ou plus classiques où R&B, folk et électro font des étincelles. That she wants to bring the future, that she can control until Johannesburg.
On se quitte sur Johannesburg, donc l'une des dernières aventures musicales de Damon Albarn. Merci de nous avoir suivis toute cette saison. On se retrouve bien évidemment à la rentrée. D'ici là, les meilleurs moments d'accent avec, à la réalisation bien sûr, Françoise Grelot et Ludivine Amado.